ce n'est pas pu terminer le séminaire, que, à un moment donné, il y a un prêtre qui nous a renvoyé plus d'une centaine d'élèves. Nous a renvoyé. En fait, il y avait un motif caché. C'était quoi? C'est que notre année, c'était l'année qui allait donner le plus de prêtres au diocèse. Et par conséquent, ça allait entraîner le départ de prêtres blancs. D'où, n'est-ce pas, ce geste-là. Nous sommes allés au collège Saint-Louis, à Flabourg. Et une année après, on a demandé à tous ceux qui étaient renvoyés l'année d'avant s'ils désiraient de rentrer au séminaire. J'ai dit non. Il faut qu'on me dise quoi? On m'a chassé du séminaire. Avant de prendre la décision de y retourner. Ce n'est pas une conséquence dans la vie. Je n'ai pas voulu y rentrer. En réalité, on n'avait pas beaucoup de choix. Il y avait principalement le séminaire. Il y avait des écoles normales pour devenir enseignant. Pour nous, le modèle, c'était prêtre, devenir prêtre. Jusqu'au moment où le prêtre, là, nous l'avait renvoyé, eh bien, maintenant, je ne voyais pas autre chose que devenir prêtre. Et dans le village, d'ailleurs, tout le village, il disait, non, nous allons voir un prêtre. Si bien que le jour où on a été envoyé du séminaire, parce qu'on a eu la lettre de renvoi pendant les vacances. Et j'ai toujours le texte en mémoire. C'était ainsi libéré. Monsieur Moulumba, après les vacances, vous n'allez plus revenir au séminaire. Cette décision a été prise pour votre bien et pour le bien du séminaire. Avec ce petit mot, vous allez vous présenter au collège Saint-Louis ou ailleurs. Signé par l'ouvrage. Terminé. Alors, je donne le contenu de ce message aux parents qui étaient au moins 16 ans, et c'était le pleurs. Parce que eux ne voyaient que le prêtre, rien d'autre, rien que devenir prêtre. Et ça devenait une perte pour la famille. Moi aussi remarqué qu'à ce moment-là, quand on est destiné à quelque chose, puis tout d'un coup on vous coupe les noms, on dit mais qu'ai-je fait? On comprend donc pourquoi. Après, quand nous a dit notre côté pouvait rentrer, je dis non, c'est un sérieux. Dites-moi d'abord pourquoi. On dit oui. Et après, cette année, il y en a un. Quelques-uns qui sont rentrés, qui sont revenus au séminaire. Il y en a un qui, de nouveau, fait partie de lui-même. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais j'avoue que si j'étais devenu prêtre, je crois que j'allais être un bon prêtre, je crois. Avec tout ce que ça comporte. Un prêtre digne. Sans commentaire. Nous avons des archives, nous avons des photos datant de 1960, nous avons des documents des discours prononcés par les différentes personnalités, le roi Baudouin de Belgique, le président Kassaroubou, le premier ministre Lumumba. Ces discours ont été consignés, n'est-ce pas, les documents écrits que vous avez là devant vous. Le hasard a fait que je devienne le gardien de ce patrimoine, le gardien de cette mémoire collective qu'est la Bibliothèque nationale. Eh bien, je suis tout heureux de pouvoir me trouver là, de voir 48 ans en arrière ce qui s'est passé. Il y a trois grands discours. Le discours du Rabodin, comme vous pouvez l'avoir. Vous avez le discours du président Kassaroubou. Vous avez le discours incendiaire de Patrice Lumumba. J'ai ici le discours de Lumumba. À vous tous, dit-il, mes amis qui avaient lutté sans relâche. À nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs petits-fils et leurs petits-enfants l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Tout cela très très bien. Cette lutte, c'est un peu, qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car c'est une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans, ce rude régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses, encore pour que nous puissions les chasser de notre noir. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir, ou nous loger décemment, ni de lever nos enfants comme les chefs. Vous voyez déjà le ton de l'histoire de ce jour. Vous voyez, un ton
au début, le commencement, c'est ça, mais après, vous voyez, comme s'il n'avait rien, mais c'est un truc. Il efface tout. Tandis que si on prend celui de Christophe, c'est tout à fait un autre temps, un temps plus conciliant. Mes chers compatriotes, ici, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons intensément le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici une émotion, la reconnaissance que nous ressentons envers tous ces artisans obscurs ou héroïques de l'émancipation nationale, envers tous ceux qui, partout sur notre immense territoire, ont donné sans compter leur force, leur privation, leur souffrance, et même leur vie, pour que se réalise enfin le rêve audacieux d'un Congo libre et indépendant. Je pense à ces travailleurs des chantiers, des usines, à ces agriculteurs de nos plaines, de nos vallées, à ces intellectuels aussi, à tous ces jeunes ou vieux qui ont senti monter dans leur cœur un irrésistible idéal de liberté et qui, quoi qu'il en fût arrivé, ont su rester fidèles à cet idéal ou ont pu l'accomplir. Je pense à nos femmes aussi qui, sans faiblir un seul instant, ont su réconforter leurs fils et leurs époux dans leur lutte magnifique et souvent même se trouver à leur côté au plus âpre du combat. Enfin, tournons maintenant vers la réalité. Je ne peux pas aller jusque-là, mais il faut oublier tout simplement qu'il y a deux temps tout à fait différents dans le discours des deux personnalités.
Donc, c'est un journal qui est publié sur le numéro 11, qui existe depuis donc, une année, numéro 11 du vendredi 4 décembre 1959. Et là, nous avons donc le titre, c'est « L'indépendance, organe de combat du mouvement national congolais pour la libération du Congo ». C'est un hebdomadaire d'opinion noire, c'est marqué. Et c'était situé à Lépolville, donc qui ça, numéro 112 rue Kalembelembe, dans la commune de Saint-Jean. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui Lingwala. Et le directeur, c'est Patrice Mumba, donc le premier ministre. Le docteur en chef, M. Ekati MC. Et là, nous avons comme éditorial, administration, tu es responsable, attention. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, en gros, la situation du pays reste confuse. Quoi qu'on en dise, l'arrivée du ministre et son discours, que nous croyons sincère, n'ont pas pu estomper cette confusion. Nous dirons tout net que cette confusion est voulue, créée par l'administration qui n'entend pas céder les positions acquises par ses enfants. Tout d'abord, nous assistons à la naissance massive des partis politiques qui semblent être le reflet fidèle de l'esprit gouvernemental. Ces partis bénéficient des avantages que les autres partis ne connaissent pas. Leurs leaders voyagent à bord des avions militaires, donc aux frais des contribuables. Ils les reçoivent gratuitement, comme à temps, sans les villes, donc qui s'amènent aujourd'hui, des locaux publics pour installer leurs bureaux. Toutes leurs démarches se font avec une étonnante facilité. Il n'est donc pas facile de deviner l'intention de ces néocolonialistes. Dans leur esprit, l'indépendance du Congo ne peut être conçue sans la présence des Belges dans les institutions nationales. C'est aussi l'opinion des Belges eux-mêmes. Troublante coïncidence. S'ils étaient entretenus, par certains groupes financiers belges, nous n'aurions certainement pas beaucoup à dire, en partant du principe que l'évolution peut se faire à rebours et que l'intérêt matériel peut corrompre l'honnête citoyen. Mais si, comme nous l'apprenons, c'est l'État qui les entretient avec notre argent, c'est un crime. Dans un cas comme dans un autre, ces pauvres citoyens et leurs financiers, l'État ou les capitalistes, sont blâmables. Le premier doit faire abstraction de leurs intérêts personnels et considérer qu'ils mettent en péril le bien supérieur du pays. Le second doit considérer la fin de leur action. Car un jour viendra où les millions de Congolais qui vivent dans des conditions abjectes comprendront pourquoi ils ne peuvent pas profiter des inestimables richesses de leur pays. Et il ne suffira que d'un rien pour déborder leur mécontentement longtemps contenu. Dès lors, les promesses les plus mirobolantes ne pourront plus les calmer. Si c'est à cela que veulent arriver nos tristes frères et leurs soutenaires, l'avenir de ce pays ne sera pas teinté de rose.
Voilà ce que vous direz, n'est-ce pas, depuis le temps de Lumumba, que ce n'est pas un temps continuant. Alors, nous avons ici un journal du 8 avril 1960 qui a pour titre pas Notre Congo, c'est l'organe de l'ABACO, l'association des Bas-Congo. Après la chute du gouvernement français, M. Pompidou assurera les affaires courantes. Oui, donc la crise financière à l'ONU, des unités égyptiennes prêtes à intervenir au Yémen, Yuri Gagarin, l'exploit de nos futurs cosmonautes représentera un nouveau grand triomphe de notre science, etc. Le Conseil de sécurité a recommandé l'admission de l'Algérie à l'ONU. Oui, nous avons les dernières nouvelles. Le Congo à la télévision, on parle, il y en a, je vois des évêques, et cet évêque congolais qui ont quitté le mercredi, le Colville pour Rome. Vous avez là la vie, non, n'est-ce pas? Et vous avez le cinéma en famille, vous avez le cinéma Baudelaire, le ciné, vous avez le cinéma Baudelaire, bien entendu, vous avez le ciné Rack. Rack, on l'avait d'ailleurs à Lubumbashi aussi. Vous avez Sitting Bell, Escort West. Mon fils est innocent, avec bien fort, et c'est pas, notre homme de Paris, n'est-ce pas, Cinémascope, Gina, Lolo Brigida, Anthony Pine, enfin, on admet.